Now let's reach a compromise here. Play it 8 bars your way and 8 bars Doodles.
All right.
Venita del corpo che canto la flor, flor dell'am intervinterni e speran. I lacin venuce mi, aula grec, aula fransca, e canto con mi. Persa ma voce e diranta del cor e speran.
Saluto nel cielo.
Saluto nelle che ascoltano
Radio Esperanto. Radio Esperanto. Nel cadro di Radio Libertaire, okdek kanao como var megahertz e telefono numero che al coutume. Nous vardectrice de kunu okdek nao vardek. Voilà, donc le numéro 01 43 71 89 40. Connu tellement
on l'a dit répété.
D'une manière, oui, répété par nous qu'on arrive à se tromper.
Dirantedjin.
Yes. Donc, en chaos, la stance Mainon, effectivement, c'est pas Paneo, qui est ni Elche, Chiti et Nekantis, pris la tuta Paneo.
Yes.
Yes, nitsiviske, facte, aferoi, valbone futfis, char, jam de la commenso, ni ne povis sendi la recon canzonon.
Yes.
Yes, la cutiman, recon canzonon, qui uno dio Serge Lanchis. Saluton yes. Serge, caro, yes, dans le code, yes. Litsi, sans cao, char, n'estante chitié, Serge, estas unu, el tiui, qui ui, auscultas nin, en cao.
Yes.
Yes. Kai.
Le pinesse que ali auscultas sin, c'est d'inesias.
N'inesias, n'inesias, el chiui, n'a. Saluton, el chiui, facte, yes. Donc, en fait, de la semaine dernière, hein, on reprend un petit yes. peu pour dire que nous, on l'a su, parce que notre technicienne,
Monique,
on reste très ouvert hein, face à nos auditeurs. Monique, hein, qui est notre technicienne.
Oui, qu'on salue et qu'on remercie.
Voilà, et donc, elle fait beaucoup, beaucoup pour que tout soit en ordre de marche, mais quand c'est l'appareil total qui tombe en rade, eh bien, c'est ce qui est arrivé. Voilà. Le dimanche à midi, tout était revenu dans l'ordre. Oui. Voilà. Et j'ai dit que nous, on avait. On avait entendu qu'il y avait un couac à un moment donné, là, ça fait un claque.
Oui, alors en fait, le lendemain, j'ai écouté, j'ai essayé d'écouter l'émission pour savoir combien d'âneries j'avais dit, quoi. Je calcule toujours le nombre d'âneries que je dis, quoi.
Ah oui, voilà, ça, ils sont multipliés par 10, alors.
Mais après, ça, ça fait des. Je suis obligé de mettre des puissances, quoi, pour réussir à.
Alors, le merveilleux de la technique, dès le dimanche midi,
c'est ça.
Les 8 malheureuses minutes. Officiellement enregistré par l'appareil pour Radio Esperanto.
Non, mais le lendemain, j'écoutais, donc j'avais que ces 8 minutes en question.
Oui.
Et par contre, j'ai écouté le surlendemain ou le sur-surlendemain. Et à ce moment-là, j'ai vu que par podcast, on peut avoir l'émission entièrement. Quoi.
Ah d'accord.
Et donc il n'y avait pas de problème.
Ah oui. Et dans les 8 minutes, il n'y a pas d'erreur ?
Non. je vais dire les bêtises avant ou après, je ne sais pas. Mais...
Non, parce que c'est les premières 8 minutes, souvent, on entend la voix de Hubert, parce que c'est Hubert et Serge qui font
Mais comme là, je ne disais rien, donc pendant ces 8 minutes, c'est toutes les bêtises qui ont été dites par Hubert. Quoi.
Ah oui, bah, voilà. Oui, il les accumule, puis comme ça, après... C'est pareil, quand j'ai appris l'espéranto, on m'a dit comme ça, tu vois, l'accusatif, c'est toujours un peu... c'est extraordinaire pour nous, hein, les Français,
oui, sûr,
hein, dans notre langue, il y a un accusatif, hein, mais on ne le reconnaît pas, on est habitué à parler notre langue, hein. Mais l'accusatif, donc de la langue espéranto, on m'avait dit oui, bah alors tu vois les N que tu mets au bout comme ça, parce que c'est des compléments d'objet direct, parce que c'est aussi des compléments de mouvement, etc. Tu les mets, tu fais une ligne comme ça, tu mets des N.
Ouais, c'est
mais
ça.
Tu t'arranges quand même pour mettre le même nom, le nombre exact hein, qu'il devrait y avoir. Voilà.
Alors, mon père, qui avait très mauvais esprit, en fait,
c'est lui qui disait ça.
Oui, quand il écoutait les Français, parce qu'il maniait assez mal l'accusatif, alors il mettait des croix quand il faisait une erreur d'accusatif, et il retirait la croix quand il mettait un accusatif de manière fautive. Alors il dit bon, en tout le compte y est, quoi.
En tout le c'est bon ça. Oui,
il est très très mauvais esprit.
Oui, voilà.
Mais bon, je pense que j'ai hérité un peu.
Voilà, donc allez sur le podcast, comme on dit, sur l'enregistrement, de toute façon, tout simplement. Le podcast, effectivement, on peut le remplacer par l'enregistrement.
Oui, ça permet de...
L'enregistrement du jour, quoi.
Finalement, on y accède, et donc...
Voilà, il y a tous les enregistrements. Ouais. Avant, on disait ça, on disait pas podcast.
Mais du coup, ça importait quand même qu'on puisse y accéder, en dehors de dire des bêtises, parce qu'en fait, comme c'est une série... C'est une série, en fait, où il s'agit de parler de la recherche de la langue parfaite, mais comme ça s'est fait en plusieurs fois, c'est un peu embêtant quand même de louper une des émissions. Donc
exact.
C'est pour ça que je voulais quand même...
Je pourrais te proposer quelque chose si tu n'es pas un de ceux qui manie sur Internet cette possibilité de... Voilà, parce que il y a un logiciel, hein, très pratique qui permet d'aller sur les émissions, cloc-cloc, tu enregistres à côté juste la partie de l'émission où tu fais cette chronique-là, justement, si on peut appeler une chronique, où tu fais cette partie particulière. Et qui fait, ça fait une demi-heure par émission.
Oui, il suffit de parler couramment chinois.
Une demi-heure par émission.
Tu parles couramment chinois, tu y arrives, quoi.
C'est mon cas, ça,
Il faut que je commence à l'apprendre, quoi.
Oui. Et donc, ben, on aurait pu le faire, par exemple, en 2023, il y a 3 ans.
Oui.
Voilà,
oui.
On était au ben non, passé même, en plus, il y a un peu plus de 3 ans maintenant, puisque Saint-Imier a eu lieu...
oui, bien sûr.
Je ne sais plus, au mois de juin, quoi, mai ou juin, oui, entre mai et juin, je crois. Et donc, à Saint-Imier, eh bien, tout ce que vous aviez fait chaque vendredi, il y avait quoi, un quart d'heure, hein, une émission sur l'apprentissage de la langue. Voilà.
Oui, absolument.
Et
oui,
il y a
oui.
eu combien? Il y a eu 10 émissions.
Oh, on en a fait une dizaine avec Hubert.
12, 13.
Hein, oui. Je pense qu'on en a fait une dizaine.
Vous vous rappelez de ça, ou Hubert?
Oui, oui, bien sûr.
Une dizaine, on va dire.
Oui,
une dizaine d'émissions, donc, sur la langue espéranto, voilà.
Oui, l'apprentissage.
Un apprentissage.
Et les règles. Ouais,
cours d'accord. Avec les règles, avec et puis une progression sur 10 leçons. Ça pourrait être pris, hein, ça. Pourquoi
oui,
pas.
C'est vrai.
Ça peut être pris.
Maintenant, ça existe plus parce que ça fait plus longtemps.
Oui. C'est simplement maîtriser Audacity, quoi.
Oui.
Aller sur Audacity. Voilà. Ben, on a toujours le. Enfin, moi personnellement, j'ai toujours le souvenir de notre ami Henrik, hein, qui faisait ça avec une. Une habileté et qui me l'a fait pour certaines choses ici.
Oui. Ouais.
Il l'a fait pour certaines choses, pour certaines émissions. Donc, ils sont arrivés derrière pour intégrer, couper par exemple toute une émission qui a été faite de discussion.
Ah oui, il maîtrisait
dans un autre studio par exemple. Oui. Et puis, bah, lui, il faisait les tranches, toc-toc, il coupait, il ouvrait et puis il mettait des chansons que je lui proposais. Il faisait ça avec une vitesse.
Oui, c'est très à l'aise.
Ouais. Je crois que la dernière fois, il a fait ça, la dernière fois qu'il a travaillé pour moi, quoi, dans le cadre de l'antenne du social, justement. Mmh. Voilà. Les deux amis IES, là, qui étaient venus pour enregistrer en dehors d'une émission classique, ont fait l'enregistrement. Moi, je leur ai dit, bah, faites l'enregistrement de tout ce qu'il y a à dire. Et puis après, je vais mettre des musiques, voilà, pour aérer un petit peu la discussion. Mmh. Et Henrik, il m'a intégré ça, comme ça, clac.
Oui, trois coups de cuillère un peu.
Voilà.
Qu'est-ce qu'on fait? On fait des annonces, là?
On va se mettre à faire des annonces, hein, comme d'habitude.
Des annonces, oui.
Yann a dit encore au Faros Annonsoi.
Yes, donc, vous savez que la CDO de Nia Radio est la librairie publique, tiens, le matin, en la DEC, ou non, district
de Gwyn, Strato Amelot.
Yes. Quand se vit mal trafis, passenta monato, quand passenta semaino, eble, Sophie Delpon, via vas un chanson, chives, morgao, sabato dudek sepa, y la gvara postag meze. Yes, de nove Sophie Delpon, estos, en la libraio. Donc, mi amanensis, mi povas diri de nove, do chicantas, Georges Brassens, Barbara, Arznavouo, kaitiel plou. Donc, Sophie Delpon, ne morgao, yes, morgao, y la gvara postag meze. Donc, si vous avez raté Sophie Delpont, je crois que c'était vendredi dernier qu'elle passait. Elle était passée également au mois de mai.
Oui,
et vous avez une séance de rattrapage demain, donc samedi 27 juin à 16h. Sophie Delpont, donc chante, Brassens, Barbara, Pierre Louki, Aznavour, Moustaki, etc. Donc, demain à 4h de l'après-midi à Publico 145 rue Amelot. Alia concerto poste de factetio d'oros nur unoro, car il a dec sepa estas concerto de guitaristo Maximilien Chazan. Do, signifas que la concerto de Sophie estos nur unuhora.
Yes.
Donc, à 17h, donc juste après Sophie, à moins qu'il se soit coordonné, je ne sais pas, peut-être. Donc, il y a un guitariste Maximilien Chazan qui fera un concert. Guitariste multiple facettes, Maximilien Chazan commence l'apprentissage de la musique à l'âge de 7 ans. C'est après ses études dans le secondaire qu'il décide de se consacrer à la pratique de la guitare classique qu'il n'a jamais cessé d'étudier, mais également la guitare électrique pour laquelle il se passionne durant son adolescence en découvrant les musiques actuelles extrêmes. Motivé par sa volonté de partage et de popularisation du répertoire classique, Maximilien entame un cursus de professionnalisation au pôle d'enseignement supérieur Paris-Bretagne, Pays de Loire. Il y obtient un diplôme national supérieur de musicien, puis un diplôme d'état de professeur de guitare. Donc voilà. Alors là, il y a un petit répertoire, apparemment, c'est un peu à base espagnole, je vois, Invocation y Danza. Valse 2, valse 3, Agua e Vino, valse Poeticos, donc Caetiel Plou. Donc demain à 17h, après Sophie Delpont, il y aura Maximilien Chazan, Publico 145 rue Amelot. Poste facte morgao kai post morgao estas la publico la ribio en festo somera festo oni vendas libroj compact discoj laser discoj kai tiel plu sabate kai dimanche de la dec unua gis la dec nawa. Donc également donc demain et dimanche donc samedi 27 et dimanche 28, à partir de 11h et jusqu'à 19h, Publico en fête d'été, grande braderie de livres, de CD, de DVD. Donc si vous voulez vous faire des cadeaux ou faire des cadeaux à vos amis, si vous avez de la place pour mettre des livres chez vous, oui, si vous venez de construire une bibliothèque et que les étagères sont vides, c'est le moment de les remplir. À l'approche des vacances d'été, Publico close sa saison d'animation par un moment festif dont les concerts témoigneront de l'importance qu'a la musique dans ce lieu libertaire, militant et culturel. Il y aura aussi sur ces deux jours une grande braderie, symbole de notre volonté de diffuser les idées anarchistes et la culture au sens large, musique compris, au plus grand monde. Je crois que c'est au plus grand nom, mais c'est au plus grand monde. Donc voilà. Et qu'il m'y a un peu va s'annoncer pour la mercredo et estasiam en julio. Mercredo unois de julio, il y a la decnawa. La invito de la grupo Luis Michel, rencontro de bateau con Luis Tassin por la Verco, comme on les enfile.
En
publico, yes. En tu telmata centre de rétention, retensa sen,
Malibergat
centro, yes. De Parisos Islam Pedusa. Rencontro donc con Luis Tassin por la Verco, quel on y enferma, malferma Céline en la Malibérée de Saint-Troy.
Il est malferma Céline, il est ferma Céline.
Il est ferma Céline, yes.
Il est Malibérée Céline.
Yes, Malibérée Céline, yes. Donc déjà donc on sera déjà au mois de juillet, mercredi 1er juillet à 19h, donc c'est une invitation du groupe Louise Michel de la Fédération anarchiste, rencontre débat avec Louise Tassin pour son ouvrage Comme on les enferme dans les centres de rétention de Paris à Lampedusa. Partout en Europe, à l'abri des regards, des centres de rétention destinés à organiser l'expulsion des sans-papiers se multiplient. Au nom du contrôle des frontières, des milliers de personnes y voient leurs droits fondamentaux bafoués. Surmontant les difficultés d'accès à ces lieux, Louis Tassin est parvenu à enquêter au cœur et autour de ces dispositifs. Grâce à une immersion inédite dans les centres d'Île-de-France et les îles de Lesbos et de Lampedusa, elle livre un tableau vivant et documenté de cet enfermement de masse. Avec elle, on découvre qu'une partie du personnel en charge de la rétention a connu des trajectoires migratoires similaires à celles des retenus, UES. Autrement dit, pas d'enfermement des étrangers sans l'appui d'une main-d'œuvre immigrée précaire. Le contrôle des frontières est par ailleurs largement délégué à des acteurs privés, entreprises, associations, collectifs locaux, qui travaillent en coopération avec des fonctionnaires de police quand ils ne s'y substituent pas. Quid de la responsabilité des États, des conditions d'enfermement, de la transparence des dispositifs dans ce contexte? Les expériences des étrangères et des étrangers retenus résonnent d'un centre à l'autre et d'un pays à l'autre. Partout s'exprime le sentiment d'être injustement traité en criminel. Que fait la rétention à celles et ceux qui y sont placés? Que fait la rétention? Et comment l'existence de ces lieux façonne-t-elle les représentations de l'étranger? Louis Tassin est sociologue, post-doctorant au Centre européen de sociologie et de sciences politiques, Université Paris-Panthéon-Sorbonne, affilié au Centre d'études de l'emploi et du travail, et membre de l'Institut Convergence Migration. Ses travaux portent sur le contrôle migratoire en Europe, le travail subalterne et la sous-traitance de l'action publique. Donc voilà, Louis Tassin, comment les enferme dans les centres de rétention de Paris à Lampedusa. Et donc ce sera une projection débat, une rencontre débat avec Louis Tassin, mercredi 1er juillet à 19h. D'accord. Et donc le reste, je vous lirai la semaine prochaine, samedi 4, il y aura une rencontre aussi avec, à propos de la guerre d'Espagne et la démocratie assassinée. Eble tout mi povas annonci pri la sat congresso, char gi ocasos en Hispanio, ca javas iom da rilato cun tio. Alors, il faut que je revienne en arrière, je ne sais pas comment faire. Toc. Donc, la congresso de SAT, estos la naudecnaua congresso de SAT, ocasos en Hispanio, en León, de la decnaua gis dudexesa de Julio, cun la temo pazzo cae militoi dat reveno de la Hispana en landa milito. La naudecnaua SAT congresso ocasos en Orbo León, inter la decnaua cae la dudexesa de Julio. La congresso coincidos cun la naudec iarigio de la Hispana en landa milito, quiu dor estas fonto de activae debatoi en Hispanio, chefe rilate a la movado por recuperado de historia memoro, quiu inter aliai aferoi baractas por identigi executitoi de la franquisma regimo, iam enterigitai amas tombe, porque la familioi povu disponi digne de iliai restajoi. La programo de la congresso enavos activetsoin relatan al tiu memor dato. La temo de la congresso estos pazzo cae militoi dat reveno de la Hispana en landa milito. Donc je vous fais une petite annonce concernant le congrès de SAT. Donc ça sera le 99e congrès de SAT. Ça sera en Espagne à la ville de León du 19 au 26 juillet avec un thème donc paix et guerre au pluriel. Anniversaire de la guerre civile espagnole. Donc le 99e congrès de SAT aura lieu dans la ville de León, donc du 19 au 26 juillet. Et donc le congrès coïncide avec le 90e anniversaire de la guerre civile espagnole, qui est toujours une source de débat actif en Espagne, principalement en ce qui concerne le mouvement pour la récupération de la mémoire historique, et entre autres affaires, c'est pour identifier ceux qui ont été exécutés par le régime franquisme, qui ont été des tombes communes, comme je peux vous dire, Amas Tomboy, et des fosses communes, et pour que les familles puissent disposer dignement des restes.
Ouais, cadavre amas.
Oui, mais en français lingvo. Il y a interdit amas tombé pour que la famille puisse disposer digne des liens restagés. Donc, ils ont été enterrés à des fosses communes et donc pour que les familles puissent récupérer les restes. Enfin, bon. Le programme du congrès aura des activités qui ont rapport avec cette date de mémoire. Et donc, le thème du congrès est paix et guerre. Alors, guerre, c'est au pluriel. Anniversaire, donc, de la guerre d'Espagne. 90e anniversaire de la guerre civile espagnole. Yen pritio, pri la Universala Congresso mi regule annonsas tion ancao, gi ocasos de la unua gis oca de Augusto en Austrio, en Graz. Donc le 111e congrès universel d'Espéranto, donc lui, ça sera du 1er au 8 août à Grasse. Donc Grasse, c'est en Autriche. Voilà, donc pour... j'ai vu qu'il y aura un congrès africain, mais ça c'est... Ah oui, mais on va faire des annonces pour beaucoup plus tard. Donc un congrès africain, ça sera du 26 au 31 décembre. Donc on a le temps de s'y préparer. Et il y a aussi un stage, on a reçu un message là. Alors, il faut que c'est pareil, je ne l'ai pas, je l'ai quelque part.
Le sage de chant, c'est ça, non ?
Le sage de chorale, ouais. Alors, le voilà, tiens. Toc, clic-clac. Stage de chant, alors, je vais le dire en français, puis j'essaie de traduire après.
Je vais m'y inscrire, d'ailleurs, parce qu'on a vraiment besoin de pluie actuellement.
Donc, stage de chant chorale en espéranto. Alors, il y aura le stage, le chant, mais il n'y aura pas que ça. Il y aura également, pour ceux qui sont les common centaux, les débutants en espéranto, il y aura également de possibilités d'apprendre l'espéranto. Et puis, apparemment, il y aura d'autres activités, puisque ça sera au mois de février. Donc, apparemment, on pourra faire des randonnées, du ski. Enfin, bref, programme très riche, visiblement. Donc, là, je vais vous donner, il y a une adresse http esperanto.ariège.fruit.fr. Donc c'est le centre d'études espérantistes de l'Ariège qui organise ce stage. Donc ça sera du 13 au 20 février 2027. Donc je pense que, si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous nous appelez tout à l'heure pendant la pause musicale au 01 43 71 80 40 et je vous redonnerai l'adresse tranquillement au téléphone. Donc stage de chant choral, mais pas que, il y a plusieurs autres activités pendant ce stage. Et donc entre autres, celle qui guidera la chorale, c'est une membre du groupe vocal Accordo. Donc je crois qu'on a un disque de Accordo dans la machine, là, peut-être qu'on aura la possibilité de l'écouter tout à l'heure. Donc, au caso stridec vera stagio de chorus a canto en esperanto, plus alia diversae culturo, turismo, mi vidas que estas promenado, skiado, estas suffice completa stagio. Di au caso de la dec triagis dudeca de februaro 2017, do esta suffice frue, do tio esta secretaria de la Esperanta Circlo de Ariège. L'adresse esperanto.ariège.free.foro. Se vi volas pli da informoj dum la music pauso, vi voku 101 gvardec 3 sepdec 1 ocdec 9 gvardec.
Il y a une formule d'Ankal Yorgos.
Yes. Yorgos est à ce nous, elle a organisé en tout au partenariat de Tio Stadio.
Le chef à personne pour l'organiser des Tio Afeiroy. Et Tio Departamento.
Tranoctado costas 200 euros. Qu'est-ce diversa et présoy pour la patrouille. Do bien, la musico accordo esta en la doccia me. Voilà.
Alors, on vient d'entendre
Merlin. C'est Merlin.
C'est Merlin l'enchanteur, non?
Et la titre de la cantate, ça se fin fine. Donc, Yen.
Merlin, caille quelque chose, non?
Non, mais pas Merlin, c'est le nom de la groupe.
Oui, c'est ça. Bonne.
Musique pour vous, et bien, c'est le titre de l'album, mais. Non, musique pour vous, c'est posté par la Venantane.
Posté, c'est posté.
Merlin,
c'est ça, lié à Féro.
Non.
Yes, Marc, c'est.
Domi revenus.
Ça se prête, yes, pour revenir à la.
Yes,
d'Aurigo, un petit peu Féro.
Tu femme à Esploro de Umberto Eco.
Umberto Eco,
pris la. Prédopré, fait que Esploro de la perfecta lingua, en Europa et Europa culture.
Yes, yes.
Donc on va revenir donc pour la dernière fois donc au livre donc de Umberto Eco, hein, la recherche de la langue parfaite dans la culture européenne. Hein, c'est précisément dans la culture européenne.
Tutti ovini ascoli besonis tout un yaron pour.
Oui, pour un yaron.
Pour un yaron, pour verki.
Un
cas où qu'on lit la borisaliai.
Oui, c'est comprenable.
Personoï, yes.
Oui, donc effectivement, c'est un travail énorme qu'il a fait, parce que bon, alors moi évidemment, je ne fais pas le résumé de ce qu'il a fait. Je prends seulement des parties, évidemment, parce que c'est un travail considérable. Hein.
Considérable.
Donc, Umberto Eco facte usas ofte du conceptoin, qui est pritium i volatium et tes paroles, et chenet li paroles pri lingvoi a priori, cae lingvoi a posteriori. Mi traducis tion tia maniere. Mi diris lingvoi antauet semai, tu es tas bona traduco vinesias, por montri que tiu lingvoi venas de antau iugio de la linguisto. La linguisto havas sien proprain ideoin, cae ec de tiu productas teorian systemon. Male, mi traducis per lingvoi post et semai, quiam la linguisto sin apogas sur iam existantai lingvoi. Gitiam productas lingvon prosperto, desperto, de io iam existanta. Sed mi conscias che mi usis pesa in vortoin, tu dis, et eble ni povas usi neologismon, qui ai facte la neologismon existas. Donc prefere usi neologismon, acceptit a in facte de varangien en plena illustrita vortar, odo mi usos idin, do a priori ne dependante desperto, cae a posteriori dependanta de io iam conata. Relative facile compreni. Alors, Umberto Eco utilise volontiers deux concepts. Il parle des langues a priori et des langues a posteriori. Bon, j'ai traduit ça d'une façon peut-être un peu pesante en disant des langues influencées, en faisant une périphrase, des langues influencées par un jugement qui les précède. Voilà. J'aurais pu dire simplement a priori lingvoi, et puis aussi des langues qui sont construites donc à partir de ce qui est déjà connu, hein, par exemple de racines répandues dans des langues déjà existantes. Donc voilà un petit peu comment je regrette un petit peu la dernière fois peut-être d'avoir été un peu trop, d'avoir utilisé des néologismes qui néanmoins sont des néologismes compréhensibles, mais c'est toujours le problème en fait avec l'espéranto, c'est qu'on a une telle possibilité de fabriquer des mots que des fois on peut arriver à faire des mots valises, bon, où il vaut mieux carrément utiliser à ce moment-là un néologisme qui est mieux quoi. Do hodiaŭ mi fintraktos la studon de Umberto Eco. Lastfoje ni atingis la unuan duonon de la deknaŭa jarcento. Ĉifoje ni finos kun Esperanto. Ĉu tio signifas, ke per Esperanto aperis Dio en nigra ĉielo? Kompreneble ne estas tio. Nur eblas diri, ke tie finas la libro de Umberto Eco, kaj ke neniu alia lingvo pli oportune funkciis. Almeno ucistum. Evidentas que Esperanto ne iĝis la universala lingvo uzata de ĉiuj, samtempe evidentas ke ĝi estas la plej taŭga ilo, almenaŭ ĝis nun, por interkompreniĝi, se oni volas vere uzi ĝin. Ankaŭ evidentas ke nenia premo rajtigus kiun ajn trudi ĝin, nek nenia premo ne lerni ĝin. Alors aujourd'hui, donc on va finir donc avec cette étude de Umberto Eco. La dernière fois, on avait atteint la première moitié du 19e siècle. On était arrivé jusqu'à la première moitié du 19e siècle. Et cette fois-ci, on finira en fait avec la deuxième moitié du 19e siècle. Et donc, l'espéranto naît en 1887. Hein, donc on terminera avec l'espéranto. Alors, est-ce que ça signifie qu'à partir du moment où l'espéranto est apparu, c'est comme si une lumière soudaine était apparue dans un ciel orageux? Évidemment que c'est pas ça, hein. Mais c'est juste pour dire que c'est simplement le lieu où finit le livre de Umberto Eco, hein. Effectivement, il termine en parlant de l'espéranto avant la conclusion, hein. Donc il termine avec l'espéranto. Puis bon, on peut quand même dire qu'il n'y a pas d'autres langues qui peuvent fonctionner de manière aussi opportune, en tout cas jusqu'à maintenant.
Oui, oui.
Il y a des essais qui ont été faits, mais ça n'a pas trop marché. Oui. Alors, il est évident que l'espéranto n'est pas devenu non plus une langue universelle qui serait utilisée par tout le monde. Hein. Ça, c'est la constatation que l'on peut faire aujourd'hui. Mais en même temps, il est évident que l'espéranto, pour l'instant, est l'outil le plus adapté, hein, pour se comprendre si on veut l'utiliser, quoi. Y compris ouais. Sur des langues, pas seulement les langues européennes, mais également d'autres langues qui n'ont rien à voir avec les langues européennes ou même indo-européennes, à cause de sa structure. Bon, on ne va pas forcément aller très très loin aujourd'hui dessus, parce que ce n'est pas une heure qu'il nous faudrait, c'est beaucoup plus, quoi. Alors, il est évident qu'il n'y a aucune raison d'imposer à qui que ce soit l'espéranto. Hein. Je vois des fois des espérantistes qui désirent à tout prix imposer l'espéranto. Moi, ils font penser aux témoins de Jéhovah ou je ne sais pas quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune raison d'imposer l'espéranto. Il n'y a non plus aucune raison de faire une pression pour qu'on ne l'apprenne pas non plus, quoi. Donc c'est chacun sa liberté de l'apprendre ou pas, et celui qui en tire bénéfice, évidemment, peut l'apprendre comme il peut ne pas l'apprendre. Enfin, chacun ses goûts par rapport à ça. Leo caecutura priciu neiam suffice parolis las foie do ilinom brasen minnautcentri tridecnau internetsien lingvoin en minnautcentri, tu vois. Protio ili proponas delegation por adopto de internetia helpa lingvo kaj ni jam parolis pri tio la semajne, do ni eble ne revenos pri tio. Volapuk do far Johann Martin Schleyer aperas en 1879. Tio estas do ok jaroj antaŭ Esperanto. Kaj do kaj volapuk rapide disvolviĝas en 1889 ducent okdek tri kluboj. Existas, je ne, kai volapuk que instigas alia in projektoin. Do sistem en granda sukceso de volapuk, la modelo estas la angla lingvo, volapuk kai germana lingvo, ankaŭ oni povas diri, volapuk forigas la literon ro, laŭ dire neprononcebla por ĉinoj. Mort chino, il m'initie à ce déquier d'hydroestime, c'est d'où l'inévo la salité ro, qui est née. La ligne vous est sas pli mal pli agglutina, hein, c'est ne isole. Exemple, good signifas bonetso, goodic signifas bono. Voilà pour que mi citas. Mitzitas, comprenable, Umberto Eco, ne estas vere a priori lingvo, char gi prenas sien radicoin al naturae existantae lingvoi. Sed gi ancau ne estas a posteriori lingvo, protio che la radicoi estas changitae per affixoi arbitre deciditae. Do l'iné usasto la tiu affixo qui une icône à siam en alia lingvoi. Alliae System Aperos, donc Universal Sprach, et Miloxentok Dekok, Passilingue, et Miloxentok Degvin, Monlingue, et Miloxentok Dekok, Novlatin, et Miloxento Naudek, donc Kekepu, Kwasauchu, et la Sama Periode, donc tu n'es, Kekayar, tu n'es. Fact et plurialti ou système, et ça, nous comprenable, des Anglais à Ougarman. Anglais à Ougarman. Donc, tout est né internet si vous avez blé. Foyer, on y accepte ce qui est là où la origine est lingvoy, on y peut avoir parole malsame, cette comprenante la samon qui aime iou esprimidges. Donc, Léo et Coutura, dont on a déjà pas mal parlé, bon, on en a parlé aussi parce qu'ils ont pas mal. Ils ont fait quand même des histoires pas très sympathiques par rapport à l'espéranto. Enfin bon, c'est pas le sujet aujourd'hui.
Quoi. Bah oui, non.
Donc, on pourrait, en plus, de façon pas tout à fait correcte. Hein, voilà. Ouais, enfin, d'une façon vraiment pas assez hypocrite. Quoi. Donc, enfin bon, ceci dit, c'est quand même des grands savants et l'un et l'autre. Hein. En tout cas, ils possèdent leur sujet. Hein. Et donc, en 1903, donc, il recense 39 langues internationales.
Ah oui.
Vraiment beaucoup, beaucoup. Hein.
Ah oui, oui.
À partir du Volapük, tu vois, on est en 1879, hein, et donc, on va dire, quoi, même pas 20 ans après, il y a déjà un grand nombre de langues internationales qui sont créées. Ça devait correspondre évidemment à un besoin de l'époque par rapport au voyage, au transport, etc.
Oui, oui, oui.
Donc
des langues qui se donnent la vocation d'être internationales.
D'être internationales.
Hein, attention, voilà. Oui.
Voilà. Et donc, à cause de ça, donc, Léo et Coutura proposent une délégation pour l'adoption d'une langue internationale auxiliaire. Hein,
voilà.
Oui. On a déjà parlé la semaine prochaine, la semaine dernière, donc on ne va pas insister par rapport à ça aujourd'hui. Alors, on voit la naissance donc, du Volapük avec Johann Martin Schleyer, hein, donc,
bah oui.
En 1879. Et donc, ça se développe très, très rapidement, au point qu'en 1889, on a déjà 283 clubs de Volapük, hein, ce qui est quand même très, très important. Je ne sais pas combien il y a de personnes dans chaque club.
Oui, hein. Oui, ce qui indique donc, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent une langue internationale.
Il y a la nécessité de cette langue.
Hein, oui. Ouais.
Donc, et puis en plus, Volapük va donner naissance à d'autres projets. Alors, le modèle, quand même, est la langue anglophone. Une langue, on va dire, plutôt anglaise ou plutôt allemande,
germanique.
Oui, plutôt germanique ou plutôt, plutôt anglo-saxonne, on va dire.
Oui.
Voilà. Alors, Schleyer retire la langue R. On n'a pas bien compris pourquoi, mais enfin, il paraît que les Chinois, ils n'arrivent pas à prononcer le R. Bon, c'est possible, hein, je sais, hein, mais enfin, bon, pourquoi pas.
Oui.
Alors, pour retirer le R, donc, il met du L partout, et donc ça crée des confusions invraisemblables. Enfin, bon, voilà.
Chinois ne manque pas d'air, donc.
Il ne manque pas d'air, voilà, les Chinois ne manquent pas d'air, oui. Oui, c'est très bien dit, oui, tout à fait, oui. Donc, on voit de plus en plus, d'ailleurs, il ne manque pas d'air, les Chinois. Donc, il dit donc, ce que dit Umberto Eco, donc, ça n'est pas vraiment une langue a priori, car finalement, elle prend quand même ses racines des langues qui sont déjà existantes.
Hein. Oui.
Mais on ne peut pas non plus dire que c'est une langue a posteriori, hein, car les racines qu'elle utilise, et surtout les affixes qu'elle utilise pour changer ses racines, pour donner d'autres significations à ses racines. Hein. En fait, une langue agglutinante, c'est ça. Hein. On prend un radical, et à partir de ce radical, on fait quoi ? On ajoute des terminaisons, on ajoute des préfixes ou des suffixes, et donc, grâce à ça, on va former des mots nouveaux. Hein. Bon, bah donc, ça s'est conduit de manière un petit peu arbitraire, sans tenir compte, en fait, de la, disons, de, on va dire, statistiquement, de la fréquence de ces racines, de ces préfixes ou de ces suffixes. Alors, il y a d'autres systèmes qui apparaissent, hein, l'Universal Sprach, la Passilingue en 1885, Mondalingue en 1888, Novlatine en 1890. Bon, voilà, donc, de fait, plusieurs de ces systèmes ne sont compréhensibles finalement que par les Anglais ou les Allemands. Donc on demande quel intérêt est-ce vraiment de faire une langue internationale. Donc du point de vue international, c'est assez difficilement utilisable. Hein. Et en plus, ces langues, bah, on accepte que, selon ta langue d'origine, en fait, tu puisses parler ces langues-là de façon différente, quoi. En te disant, bon, même si tu les parles de façon différente, celui qui t'écoute, il va quand même comprendre.
Alors, bon, quoi. Alors là, elle est présentée en allemand. Alors, oui. International, Sprache.
Oui, Sprache. Sprache, oui. Je ne l'ai même pas prononcé.
Mais oui, oui.
Donc, tu vois, bon, pour
c'est
moi,
le Ho. C'est le Ho.
Oui, le Sprache.
Sprache.
Alors, bah, pour moi, tu vois, bon, je ne suis pas chinois, donc j'arrive à prononcer le R, mais par contre,
bah, oui,
Sprache,
oui,
je n'arrive pas à prononcer comme
le Ho.
Voilà, donc je manque de R. Je manque pas d'air, mais je manque de R.
Oui, oui, oui.
Alors, Umberto Eco, interessiĝas dum pluraj paĝoj al Esperanto, kiu montras multajn avantaĝojn. D'où ça se relatif favorable à l'espéranto, tu connais Umberto Eco. Gesta samtempe agglutina kai isola lingvo. Ni diros postelo. Gesta simpla, sed respondas pli volonte al principo de efficetso ol al principo de sparemo. La capablo de la lingvo adaptigi por esti lernita de kiwain, sen depende de sia patrina lingvo, povus conduci al multae changioi dum la tempo qui facte grave modifus la originan esperantan lingvon. Tio estus vere risco qui povus existi. Cae do pro tio existas en esperanto fundamento.
Yes.
Do tio estas, tio estas la malmolae reguloi nechangeblei.
Ouais.
Tu peux dire simple, tu sais. Anche existe fundamenta crestomatio, donc tu vois ça se collecto des diverses modèles style ai vercoi, cherpita el traducoi des femmes ai vercoi el chulingoi.
Yes. Fundamenta. Yes.
Kai anche existe académie de esperanto por chun reguli.
Yes.
Donc, quelquefois, il est disputé, je sais que tu amènes, et qui ça s'amène, tu académie. Malgré tout, l'espéranto évolue, ce qu'on prenait, mais c'est mal plié au nazi lingvo. Je peux vous dire, il t'amène qui est.
Académie au d'espéranto, avec des qui aiment Yaro, Kaya.
Yes.
Ni tout, tu la commencie, je sais de.
Non, ça, c'est.
Académie au.
Oui,
oui, c'est ce comité de lecture, en français, ça, yes.
Donc, facto, on peut se dire qu'il est la barre.
Les quatre comitato.
Yes, yes. Facto, on peut se dire qu'il est la barre pour Esperanto et ça se chef est politique à Ibaroy.
Yes.
Et ça, c'est lié à Ibaroy, mi parole posté. Alors, Umberto Eco donc, s'intéresse enfin, pendant plusieurs pages, hein, donc, il y a vraiment quasiment tout un chapitre sur l'espéranto, hein, et il montre que c'est une langue qui a beaucoup d'avantages. Il dit même que c'est une langue qui pourrait être utilisée de façon européenne, mais bon, évidemment, il y a toujours cette barrière, en fait, qui est une barrière politique, hein, c'est pas autre chose. Hein. Donc, il dit que c'est une langue qui est à la fois, enfin, il peut montrer que c'est une langue qui est à la fois agglutinante et isolante. Alors, agglutinante, que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une langue, donc on part de racines et ensuite on ajoute des terminaisons ou des préfixes et des suffixes. Donc, voilà, à travers ça, on va donc former des mots nouveaux. Hein, donc. Et il dit aussi que c'est une langue isolante. Alors, ça, c'est pas du tout le cas du Volapük. Hein, donc, c'est une langue isolante dans le sens, par exemple, où on peut dire, on va dire par exemple, un mot comme arbar, qui veut dire forêt. Je donne un exemple. Hein, donc, arbar, s'est formé à partir de arbre, hein, et ar, c'est collection. Hein. Donc le suffixe collection, arbar, collection d'arbres, ça va donc donner forêt. Mais si on prenait le chinois, je ne sais pas tout comment on dit forêt en chinois, hein. En tout cas, en chinois, qui est une langue isolante, on peut mettre à côté arbre et collection. Donc, donc à partir de ça, en fait, on va former un mot. Mais ce qui est intéressant en espéranto, c'est que par exemple, le suffixe ar, qui veut dire, qui est un suffixe pour dire collection, on peut dire la aro, ça veut dire la collection.
Oui, donc, oui, voilà, donc oui, lui aussi.
On peut l'utiliser aussi de manière, voilà. De manière isolante. Voilà. Mm-hmm. Alors, l'espéranto est simple. Mais tout en étant simple, il est quand même pas si simple que ça, parce que en fait, il s'agit aussi de faire une langue qui donne toutes les nuances que pourrait donner une autre langue. Hein, donc, elle est simple, mais elle répond plus volontiers au principe d'efficacité, hein, qu'au principe d'économie. Hein, voilà. Quand on voit que ça va être trop simple, mais que ça va simplifier au point de prêter à confusion, on préfère aller vers l'efficacité plutôt. Alors là, j'allais dire en espéranto, ça donc. Donc, gestas simples correspondent à ce pivot al principio d'efficace, al principio de sparemo. La capable de la ligne voit adaptée, j'y pourrais si l'ernite des kiwai ne s'en dépendent des si apatrides des lingues, pour vous ce qu'on doit. Si, j'ai déjà dit en espéranto. Donc, la possibilité de la langue de s'adapter pour être en fait apprise de n'importe qui. Quelle que soit sa langue d'origine, ça pourrait conduire en fait à des changements, à une évolution de la langue, comme c'est une langue qui est quand même très souple, donc elle pourrait évoluer énormément, hein, et ça pourrait modifier la langue originale espérantiste, c'est-à-dire qu'au bout de l'espéranto, c'est-à-dire qu'au bout de disons de 10 ou 20 ans, on aura une langue qui serait complètement différente, quoi. Donc ça a été pensé, hein. Et donc, ça a été pensé, en fait, de plusieurs façons, hein, donc de trois façons. Hein. Bah, d'une part, il existe ce qu'on appelle un fundamento, c'est-à-dire un fondement. Après, oui. Voilà. Et donc, ce fondement, en fait, c'est un ensemble de règles, un nombre limité de règles, hein, mais ces règles-là, on ne peut pas y toucher. Donc ça permet en fait de garder en fait la structure de la langue. Même si la langue évolue, on aura toujours cette structure qui est le fundamento. Il existe aussi un fondement, par rapport à une collection d'œuvres, à une collection d'œuvres qui ont été traduites dans différentes langues et qui sont la base, une base linguistique, enfin une base, on pourrait dire une tradition humaniste, une tradition linguistique qui permet donc de donner à chaque mot réellement un sens. Parce qu'effectivement, si je dis une table, une chaise, on comprendra toujours que c'est une table ou une chaise. Par contre, si je parle de sentiments, les mots sont beaucoup plus compliqués en fait à comprendre, et donc c'est important d'avoir une tradition linguistique qui permet de donner un sens, un véritable sens de tradition en fait aux différents mots, hein. Donc ça part de différents styles qui peuvent exister, de différentes œuvres prises dans toutes les langues différentes, hein. Et puis la troisième chose, c'est qu'il existe aussi une académie d'espéranto. Alors, souvent, les académiciens passent leur temps à s'engueuler, mais enfin, malgré tout, ils... peu importe, tu veux. Ça, c'est vrai dans toutes les langues, hein, si tu veux. Donc, voilà. Ils s'engueulent d'ailleurs souvent assez bêtement, hein, faut le dire. Mais je veux dire, en tout cas, le fait que cette académie existe et peut authentifier ce qui doit rester, ce qui ne doit pas rester, c'est quand même, ça permet quand même de donner une stabilité à la langue. Et on peut constater que même si l'espéranto a un peu évolué au cours des 100 dernières années, hein, mais il a beaucoup moins évolué qu'une langue nationale. Voilà, donc on peut quand même l'observer. Et évidemment, les barrières sont plutôt des barrières politiques. Ali Abaro, povus esti che Zamenhof estis judo. Facte, li inventis Esperanton cele al intercomprenigio de ciu judoi tra la mondo. Comence di fare esti, observante la decision de la tuta hebrea cred comunum. Facte, malmultai judoi capablis cae capablas la hebrea lingon. Caroline, nous comprenons les Romains, Israël, comprenons les pro diasporo, ciu judo parolas concrete la lingvon de la lando en ciu vivas. C'est ce qu'on peut même comprendre la faire. Do Esperanto presentiges kiel neutra lingvo. Krom tio, ek de 1905, Zamenhof klare decidas ne plu interveni rilate la ŝanĝoj decidotaj. Israelanoj proponos al li prezidi judan asocion, kaj li tute simple rifuzas.
Yes.
Tute simple. Komence li estas hilelisto, qui aux philosophies, aux professeurs et soumis, JTL, Nefaru Al-Aliulu, Al-Aliulu, Kion Vine Desiras, Kion Nefaru Al-Vimchen. C'est comprenable. C'est fini, l'Igence Homaranismo, avec des mines Nautsenses, Tio Estas Celado Al-Pura Hometso. Je ne peux pas dire. Comprenable et tu sinteno des amétrophes, ça se toutait man sam al tio de Martin Schleyer, Charles Martin Schleyer, estis si à lingvo l'inévolis shanji kionain. Donc, kay au tio verschein et voilà peu que ma succès. C'est espéranto et ça se toutait mal à faire, et qui aime la. Qui aime la ligne voyant Fuxia, c'est en la congresse au 1905, qui dit, Zamenhof tout un évol à se dire, il doit, mi estras qui en a, né, liestras nédion, il dira, nous, la ligne voyant appartient à Salvi, mais n'est plus concerné.
Ça l'automne, il est fort la 6, la.
Il est fort la 6,
la. Il dira,
La Estraron. Alors, une autre barrière, en fait, qui pourrait exister, c'est que, de fait, Zamenhof, il est juif, quoi. Alors, c'est pas pour rien, parce qu'en fait, et d'ailleurs, il le dit lui-même, en fait, si j'avais pas été un juif du ghetto, j'aurais jamais inventé l'espéranto. Hein. Il le dit clairement. Hein,
oui.
Et donc, il a effectivement inventé l'espéranto, parce que, de façon à ce que tous les juifs du monde puissent se comprendre, puisqu'il constate évidemment qu'il y a une, pas surtout à l'époque, enfin, il y a une diaspora, il y a une véritable diaspora, hein, donc. Et donc, qui fait qu'en fait, il y a peu de gens qui parlent la langue hébraïque. Mm-hmm. Et en plus, bon, c'est pas évident de parler la langue, c'est pas évident de parler l'hébreu, parce qu'en plus, ceux qui sont particulièrement religieux, il n'est pas question de parler l'hébreu pour parler de choses communes. Tu parles pas à ton chien en hébreu, hein, c'est pas vrai. Donc, c'est une langue qui est vraiment la langue sacrée, quoi, par définition. Et d'ailleurs, Zamenhof n'a jamais imaginé que ça puisse un jour devenir une langue commune, quoi.
Oui,
c'est la langue de la religion.
Oui.
Donc, effectivement, y a peu de juifs donc, qui sont capables de parler, de parler l'hébreu. Hein. Et puis, du fait de la diaspora, chaque juif, en fait, parle la langue du pays dans lequel il vit. Quoi.
Oui.
C'est aussi simple que ça. C'est assez logique. Hein. Et de fait, espéranto se présente comme une langue neutre. Alors, de plus, à partir de 1905, il faut quand même le souligner, Zamenhof dit « la langue ne m'appartient plus ». Maintenant, ça y est, il y a suffisamment vous êtes suffisamment nombreux maintenant à la parler. Oui. Considérez que je n'existe plus par rapport à ça. Vous vous débrouillez avec, quoi.
Il quitte la présidence. Voilà,
il quitte la présidence. Oui, oui. Alors, de fait, c'est un peu aussi une des raisons pour laquelle, en dehors du fait de la structure même du Volapük, mais en dehors même de la structure même du Volapük, en fait, Martin Schleyer, lui, il voulait rester propriétaire à tout prix.
L'inventeur.
Oui. Donc c'est aussi une des causes de l'insuccès du Volapük. Mais il y en a d'autres, évidemment.
Ce qui n'empêche pas qu'après, par le travail qu'a fait Zamenhof, il a regardé le Volapük.
Ah ben, bien sûr.
Il a eu la possibilité de dire, attention, moi j'ai fait quelque chose, mais...
Ben, non seulement il a regardé le Volapük, mais d'abord, en fait, il a essayé de l'apprendre.
Oui.
Parce qu'il avait déjà son projet d'espéranto à ce moment-là, il a abandonné son projet d'espéranto pour apprendre l'espéranto, le Volapük. Et quand il a vu, effectivement, que ça ne marchait pas pour différentes raisons, et en particulier parce que, bon, ça restait quand même une langue a priori plutôt qu'une langue a posteriori, quoi. Bon, ben, il a fini par... Et donc, finalement, mon projet n'est pas si bête que ça, je vais le remettre sur le tapis.
Ah oui, puis il l'avait bien en mémoire, son projet, quand même.
Il l'avait en mémoire, d'autant plus que son père avait brûlé son projet.
Il
lui dit, bon, écoute...
Il l'a aidé, son père, en fait.
Oui, oui.
En lui brûlant son projet...
Surtout, j'ai l'impression
qu'il avait encore tout chaud dans la tête,
Oui. Et puis surtout, je pense qu'il y avait les Russes quand même qui avaient une influence énorme en Pologne, et le père a dû commencer à avoir les miquettes quand même que les Russes tombent sur son projet. Et donc, il a préféré le brûler pour pas avoir d'histoire. Quoi.
Oui.
Mais de fait, Zamenhof, de ce fait-là, disons, a recommencé un projet en utilisant ce qu'il y avait de bon dans son projet, en l'améliorant, quoi, en fait. Mm. Donc, ça a été quelque part une bonne chose aussi, quoi. Alors, Donc, je montre également que, enfin, ça, on l'a déjà développé ailleurs, parce que c'est pas Umberto Eco qui en parle. Hein, on en avait parlé déjà une autre fois.
Déjà donc, pas mal de fois. Oui.
Je complète un petit peu ce que dit Umberto Eco. Bon, parce que bon, évidemment, son sujet c'est pas l'espéranto. Son sujet c'est langue parfaite. Hein, donc voilà. Donc,
oui,
je me permets d'en dire un peu plus, quoi. Voilà. Donc, je dis donc qu'en fait, à un moment donné, on propose à Zamenhof d'être président d'une société espérantiste juive, et purement et simplement, il refuse.
Ah oui, il refuse.
Parce qu'il est devenu athée entre-temps. Oui. Hein. Mais au début, il est liste. Hein. C'est une philosophie qui peut se résumer. Qui peut se résumer comme ça. Hein. Fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse à toi-même, quoi. Je résume quand même à l'extrême. Hein. Mais finalement, il finit par devenir omaraniste hein, à partir de 1906. Et donc, c'est tout à fait quelque chose de différent. Je ne sais pas si je dis un petit peu ce qu'est l'illisme et l'omaranisme, parce qu'on a déjà parlé, ou est-ce que ça va être trop long ?
Non, je ne sais pas. Il n'y a rien de trop long ici. Hein? Non, on n'en a jamais parlé. On peut mettre une pause musicale avant de...
Bon, bah, d'accord.
Oui, oui. Parce que sinon, le livre lui-même, t'as fini, là ?
Le livre, j'ai quasiment fini.
Oui, parce qu'à la fin... À la fin, il explique quand même qu'il voit que l'espéranto a bougé depuis le début. Hein.
Oui, bien sûr.
A bougé, donc a évolué. Parce qu'il y a des gens qui disaient « Ah oui, mais l'espéranto, comment ça va évoluer et tout ça ?» Mais déjà, au niveau des racines, c'est compréhensible.
Oui, bien sûr.
Ça évolue au niveau des racines. Mais sinon, dans son mécanisme...
Au départ, il démarre avec quelques demi et quelques racines.
Comme le mécanisme, il est logique. Je ne vois pas comment il peut évoluer après. Voilà, par des mots nouveaux, oui.
Il évolue plus par les néologismes, par les structures, il n'évolue plus. Hein. C'est plutôt par les néologismes qu'il évolue. Qu'est-ce qu'on fait ? On met une deuxième pause musicale et je reviens après dessus.
Oui, voilà, donc, c'est mieux. Oui,
ça va le temps, hein, si on peut faire
ça. Ça va aérer, pas de la manière dont on conçoit, parce que.
Bah oui, c'est ça.
On aimerait plus de souffle.
On y besoin d'assister à l'omita. Voilà. Vi auscultas Radio Esperanto sur la fréquence de Liberecana Radio, hoc decnoco valmigelso, la radio de Anarchista Federatio, sendio nec mastroi nec reclamoi. Donc vous êtes à l'écoute de l'émission Radio Esperanto sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, la voix sans Dieu ni maître ni publicité, sur la fréquence 89,4 MHz. Pour nous appeler au studio, si vous avez des questions, peut-être par rapport tout à l'heure quand j'ai parlé du congrès d'OSAT, vous pouvez nous appeler au 01 43 71 89 40. Printempos tiam maias, ludante graboi gaias, fa-la-la-la-la-la-la-la-la, fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Printempos tiam maias, ludante graboi gaias, fa-la-la-la-la-la-la-la-la, fa-la-la-la-la-la-la-la. Culminoi sur herbei, char lungi verdas Somero gioion portas, jen vintra Cristo mortas, fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Somero gioion portas, jen vintra Cristo mortas, fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Cae lodas la chanson, la nymphoi cun in Lodas la chanson, la nymphoi cun in pola. Sic iani meditas, iunagia rab invitas, fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Sic iani meditas, iunagia rab invitas, fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Fa-la-la-la-la-la-la-la. Onim foi cum grazi, et nudum uncur mi. Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Onim foi cum grazi, et nudum uncur mi. Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Donc on vient d'entendre le chœur, c'est une chorale à Cordeaux. Donc oui, tout à l'heure j'en parlais, c'était par rapport au stage d'espéranto donc qui va avoir lieu au mois de février 2027, donc dans les Pyrénées, en Ariège. Doni auscultis la gruppo a Cordeaux, kai la gvidantino de la stagio estas unu anino de tiu gruppo a Cordeaux. Mi pare che la canzone estis o chi abril. La stagio ocasos en de la dectria gis dudeca de febraro 2017 en Pyrénées, en le département Ariège.
Do mi t'amènerai souvent et mi dire ce qui est ce hilénisme ou qui est ce romaranisme ou quand qu'il y a il omettait par l'esprit ou en la antawai semaine. Do hilénisme tu obéis de Hélène. Hélène est ce Juda doctor de Ariège des Babyloniens des Vénus. Il inscrit juste Sebdek et Ogdek Antaunia Erao, qui est mortis Verchaïe, Tchirke ou la Yarodek. Les différences gis de ses collègues et per plus large interprétado de la ordonne de la legge, considérant plus la spiriton ou la texton. Il y a or à regulo estas, qui estas malagrable al si, tion, ne faru al si approximulo, chitio estas a tout à legge. Qu'il y trouve en Babylone à Talmud, on y trouve Sion. Cherchez-vous 1896. Zamenhof commence à opinier que la diversité de la langue n'est pas le seul obstacle pour la unuïdjo de la homme. C'est que la diversité de la religion, okay, l'oudas plus grave en rôle, il y est évident et tout est pravis. Tion dira Sandré Charpillou. Tiel l'histarigis. Nenovan religion, sed pilargen manieron concepti la existanta in religion. Li nomis sian pens systemon hilelismon, char li sentis sin en la identezo cun hilel, tiu antigua saggiuro. En 1901 li publicigis rustingvan libreton titolitan Hilelismo, proiecto prisolvo de la hebrea demando. Qui est subscribit par le pseudonymo Homo Sum, Miestas Homo. Tiu proiecto, qui un mi nomas Hilelismo, donc c'est Zamenhof qui parolas, consiste en la credo de morala ponto per quiu ciui popoloi, quel ciui religiui, ciui religioi, povus frate unuigi, sen la creado de novai dogmoi, quel sen la necesso pour la popolo qui il y forgeait tout si une nunain religion. Et ça se forme au prix de la quête, ce chien ne peut vous dire. Tiu libro est traduit à Adolphe Holzhaus, donc Pritium Miresumos. Alors, donc, Hillel donc, est un juif, est un docteur juif de la loi, hein, qui vient de Babylone, hein, donc, il est né vers 70 ou 80 avant notre ère, hein, et il est mort environ, dans les années 10, après notre ère. Il se différencie de ses collègues, d'autres philosophes, car il a une interprétation plus large des préceptes de la loi, hein. Il considère davantage l'esprit que le texte. Et sa règle d'or, c'est ce qui est malagrable à toi, ben, ne le fais pas aux autres, hein, tout simplement. Et vers 1896, donc Zamenhof commence à penser, hein, que la diversité des langues, c'est pas le seul obstacle pour unifier les hommes. Hein. En fait, on voit bien les Ukrainiens et les Russes, hein, ils parlent la même langue. Quasi, enfin, donc, il y a même souvent, d'ailleurs, les Ukrainiens parlent mieux le russe que l'Ukrainien, entre parenthèses, enfin, peu importe. Mais il voit donc que la diversité des religions a un rôle plus important. Et évidemment, il a raison, hein. Et donc, il n'a pas du tout envie de mettre sur pied une nouvelle religion, mais plutôt une nouvelle manière de concevoir les religions existantes. Et il nomme sa pensée hilélisme, car il se sent en communion de pensée avec Hillel. en 1901, donc, il publie un livre en russe, hein, qui est quasiment sa langue maternelle, hein, pour Rosenkopf. Oui. Un livre russe donc, qui s'appelle donc, « Illélisme, donc, projet de solution de la question juive ». Voilà. Il met comme signature, en fait, « Homo sum », hein, donc « je suis un homme ». Ce projet que je... Donc là, je parle, c'est Zamenhof qui parle, hein, que je nomme « Illélisme consiste dans la création d'un pont moral à travers lequel tous les peuples et toutes les religions pourraient s'unir fraternellement sans qu'il soit nécessaire de créer de nouveaux dogmes. Hein. Voilà, donc... et sans leur demander non plus de renoncer à ce qu'ils croient déjà. Quoi. Voilà. Doyen prifidelisme ou quelqu'un de mi parolos pri homaranisme.
Oui, parce que moi je suis pas, je n'ai pas de croyance, quoi. Hein.
Oui, oui.
Donc, je me suis toujours dit, mais comment ça se fait qu'entre les croyants, ils s'entendent pas, quoi. Ils s'entendent pas. Par contre, ils nous haïssent parce qu'ils disent, on est des mécréants, nous. Voilà. Oui. Alors, ce sont sans doute des questions de pouvoir entre eux, parce qu'ils sont tous, ils croient tous à...
Entre l'Église et les dirigeants, hein, c'est pas problème, d'ailleurs.
Ils croient tous à un Dieu, je sais pas, qui est différent, sans doute, hein, je sais pas, moi je me tourne pas vers ça, mais donc il y a quelque chose qui va pas, quoi. Donc, mais lui, il essaye d'aplanir ça, de trouver un lien à l'intérieur qui fasse que...
Moi, je me sens plus proche du diable, quand même,
Oui, oui. Et ça, en quelle année, ça, alors, il sort ?
Je rigole. En 1901.
En 1901.
Et maintenant, on arrive donc en 1906. Donc, à ce moment-là, il a encore changé son idée par rapport à ça. Donc, et là, on est en 1906. Donc, c'est l'homaranisme.
Ah oui. Alors, c'est bien que la première rencontre internationale, 1905, elle se passe en France, quoi.
Ah bah, oui, carrément.
Oh,
oui.
C'est inouï, ça. Inouï.
Bah oui, qui est un pays laïque. Hein,
les Zamenhof, ils tombent de haut. Là,
depuis 1905, d'ailleurs.
Ah oui, et il comprend bien que il arrive dans un pays où il pense à ce niveau-là, bah, c'est
oui,
pas bien.
Oui,
hein,
oui. 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 D'ailleurs, en fait, c'est un pays en fait, où on arrive à la solution de la laïcité. C'est pas du tout à cause des autres religions, etc. C'est à cause de la même religion, en fait. C'est à cause des catholiques et des protestants qu'on arrive à la notion de la laïcité. Hein. C'est tout simplement.
Hein.
Ah, oui. Donc maintenant, donc, le maranisme. Donc, en février 1916, Zamenhof tourne ici à la publico trans la judezzo qui informis que la nomo hilelismo estas nur provisor.
Ah, d'accord.
Estas supposate un satawigigin per la nomo homaranisme. Mm-hmm. En 1916, hein, donc, qui au plus précise exprimas la tutan essenzon de nia ideo. La ideo de homaranisme descigis do de la antaua existo de hilelismo, de qui uji distinguigis per tio, que hilelismo concernis nur unu homan groupon, la judon, dum la homaranismo concernas ciun popolon kai ciun religion kai ciun ne religion en kai comprenable oni povus resumi la aferon dirante ke hilismo estas ponto inter la judoj homaranismo ponto inter la homoj tout simple en marto 1916 do Zamenhof publikigis broschuron titolitan homaranismo en quiu li clarigis la homaranismo estas celado al pura homezzo cae absoluta intergenta justezzo cae egalezzo. La homaranismo estas instruo quiu ne desirante la homon do mi diros pli char mi vidas que la tempo fort passas. Donc, je reviens simplement à la traduction donc, de ce que c'est donc, que l'homaranisme. Il y a encore deux, trois choses à dire. Il faut quand même qu'on termine aujourd'hui quand même de parler du livre. Hein, donc. En février 1906, donc, Zamenhof, il publie donc... Il dit que l'idéalisme, en fait, c'était seulement une idée provisoire. et qu'il faut maintenant la remplacer par une autre idée qui est celle de l'omaranisme.
Voilà, tout à fait. Oui, oui.
Et donc qui exprime davantage en fait, qui exprime davantage les idées qu'il a à ce moment-là, sans doute après 1905, dans la mesure où il arrive dans un pays laïque, effectivement, où a lieu le premier congrès à Boulogne-sur-Mer. Alors l'idée de l'omaranisme, donc, elle vient quand même de l'idée avant, antérieure de l'iélisme, mais qui se distingue en cela que l'iélisme concerne un groupe d'individus, un groupe d'hommes, qui sont les juifs, d'accord, au départ,
oui.
Même si c'est quand même un peu plus que ça, quoi. Alors que l'omaranisme concerne au contraire tous les peuples de toutes les religions.
Voilà, oui.
On pourrait résumer l'affaire en disant que l'iélisme est un pont entre les juifs,
oui.
Du fait qu'il y ait une diaspora, etc., etc., quoi. Et alors que l'omaranisme est simplement un pont entre les hommes. Voilà. Donc, mitamen finus,
n'est-ce pas
que ça se pour dire et bien, tu veux avoir ça, il y a une affaire en pour dire, et
puis c'est né, tout est né.
Donc,
on est chiam,
avas
n'est ni on pour dire,
donc, dire, et nous, Umberto Eco, li concludas resumante la tuton, donc, il dirait, si on peut le dire à Umberto Eco, comme par exemple,
il
parle l'esprit espéranto. Do, Umberto Eco do concludas resumante la tuton, sed anch'io parolante pri la problemo della traduco.
Yes.
De unu lingvo al alia lingvo. La Umberto Eco, la plei tauga lingvo por traduci, estas la lingvo aimara. Vous n'êtes pas assez surprésité. Mi citation, tu vois. Progi a perfectezzo, aimara capablus traduci ciun penson esprimitan en aliae lingvoi, sed tio ne funccius reciproque. On peut se traduci ciu a lingvo en aimara, sed poste se oni havas la, se oni havas de aimara gis aliae lingvo, et ça se multiplie compliqué. Mi iom diros pli pretio. Eblus traduci ec de alia lingvo gis aimara, sed la malo estus pli complica.
Yes.
Laumi esperanto estus anceo bona solvo, cene, facte anceo observeblas che estas pli facila afero traduci en esperanto ol ec de esperanto en alia lingvo. Tiens, on observe à ce fancy, tu vois.
Yes.
Mm-hmm. Alors, bon, on revient donc à Umberto Eco. Alors, bon, il a une conclusion qui consiste, bon, déjà, comme dans n'importe quel livre sérieux, donc on résume un peu tout ce qu'on a dit. Bon, on ne va pas revenir dessus, hein, donc. Mais il parle aussi du problème de la traduction. La traduction d'une langue dans une autre langue. Il est quasiment impossible de traduire justement d'une langue dans une autre langue. Et il dit, mais alors, quelle langue pourrait permettre de faire ça? Donc, il a vu un petit peu toutes les langues qui existent, quoi. Et il arrive à la conclusion qu'il y a une langue, quand même, qui serait très bien par rapport à ça, c'est la langue aïmara. L'aïmara, c'est parlé par quelques centaines de milliers de personnes au Pérou, sur le lac Titicaca, hein, c'est vraiment... C'est...
Ah oui.
Donc, si tu veux, il faut vraiment aller le chercher. Hein. Je ne sais pas où il a été trouvé ça. Hein, alors, il dit que grâce à sa perfection, l'aïmara pourrait permettre de traduire n'importe quelle pensée, c'est apparemment une langue très souple, hein, qui permettrait de traduire n'importe quelle pensée exprimée dans une langue et de la traduire directement en aïmara. Par contre, si on devait traduire de l'aïmara dans une autre langue, la langue, elle est très souple, mais on n'arriverait pas à le faire dans l'autre sens. On le ferait dans un sens, mais on n'arriverait pas à le faire dans l'autre. Et donc, il serait possible de traduire à partir d'une autre langue en aïmara, mais traduire des aïmara dans une langue nationale, on va dire, quoi, ce serait très compliqué. Et donc, en fait, c'est quand même un petit peu quelque chose qu'on observe aussi en espéranto, c'est que finalement, c'est assez facile de traduire du fait de la souplesse de la langue, du fait de la, entre autres, de l'accusatif qui permet de mettre la phrase dans, dans n'importe quel ordre, etc. Du fait de la possibilité de fabriquer des mots, de fabriquer quasiment la langue au fur et à mesure que tu la parles, grâce au fait que la langue est agglutinante, hein, donc où tout est permis finalement, il n'y a pas d'exception, etc. Et certainement plus facile, enfin, on observe qu'il est plus facile de traduire de ta langue nationale vers l'espéranto que de faire l'inverse. Alors bon, il dit ça pour l'Aymara. Selon moi, si on prenait l'espéranto, ce serait une solution qui serait encore meilleure que celle de l'Aymara. Mais moi, ça me plaît bien quand même l'Aymara. Je trouve ça. J'ai bien envie d'apprendre l'Aymara.
Il faut mettre un grand chapeau.
C'est ça, voilà. Voilà.
Ah oui,
Et pourquoi pas hein. donc voilà. Et donc.
Il faut une barque aussi.
Comment ?
Il faut une barque.
Il faut une barque, oui, c'est ça. Oui.
Faut une barque, un grand chapeau. Une pagaie silencieuse.
Ah, mais j'ai été quand même sur une île du lac Titicaca.
Eh bien, tu vois, oui. Même...
Ouais. Ah non, mais c'est vraiment...
C'est Titi ou Caca
c'est... Oui, bah, c'est assez décoiffant comme ça. Celle-là, on est forcé de la faire.
Hein. Ah oui
ouais, on ne peut pas éviter de la faire. Ça, c'est un des meilleurs souvenirs qu'on peut avoir en classe de... Je crois que c'est en classe de 4e, je crois, ou de 5e ou de 4e.
Qu'on fait cette blague-là
oui, bah, non, mais... oui, bah, c'est quand le prof de géographie t'enseigne ça, quoi. Et donc, je me souviens, j'avais un prof de géographie, quoi. Il dit, bon, alors, donc, sur le lac Titicaca, Pipicaca, bon, paf, il dit ça, mais il passe tout de suite à autre chose, de façon à éviter que les gamins fassent des blagues idiotes sur le sujet.
Des couillons, quoi, partout, comme ici.
Alors, donc, mais j'ai quand même envie, quand même, de parler de la fidélité des traductions, parce que ça, c'est quand même, sinon, c'est quand même, on a déjà parlé ici, mais on va quand même en reparler, donc, non, oui, c'est Ravassan Kong, quelques minutes.
Oui, c'est ça.
Donc, fidèles sur la tradu, que m'y reprennent André Cherpillot, la France Averquiste au Tristan Bernard, 1816 d'Excès, 1904 d'Excep, rapporte esprit experimento farita en 1900 dec de la Gazette l'Excelsior. Unui onidonis ad ses competentae traducistoi literaturan texton de Abel Hermant. Plenan des subtilages. Tiu texto estis traducita en la lingvoin italan, hispanan, anglan, germanan, rusan, kaj esperantan. En ses lingvoin. Poste oni donis la ses traducajoin al alia skipo de ses traducistoj same kompetentaj pour que tu retraduques en la France en lingua.
Ah, yes.
Intéressant. Donc, comparant la originale en texte qu'on j'ai retraduque, on y constata staienon. La retraduque tra esperanto estis identa, qu'on nous aligio de duvortoi. La retraduque tra la itala estis presque au samebona, tio estis antausiebla cha. La latinida lingvoi havas multa in similajoi con la Franza, comprenez bien.
Yes. Mm-hmm.
La retraduco tra la hispana entenis tamen quelcain gravain eraroin. La retraduco tra la angla estis malbona. Mm-hmm. La retraducoi tra la germana cae la russo, cae la russa estis tre malbona. Cae Tristan Bernard commentis qui a mis de vos petits traducons de unu théâtrage mia, mi unu et igos traduci gin en esperanton. Poste mi sendos gin al exterlanda competenta esperantisto, qui u traducos gin en sian gepatran lingvon. Bonne geideo, li iam ecris, pensu que dec foie mi eclernis al anglan, ca in eniem successis. Donc tu vas me dire à Tristan Bernard. Si vous comprenez, mais Havas, bon, un caractère en cette table, une culinaire, ça a intérêt à faire. Bon, alors, l'auteur français Tristan Bernard, 1866-1947, hein, donc, il rapporte une expérience qu'il a fait en 1910 à travers le journal L'Excelsior.
L'Excelsior, oui, oui. L'Excelsior.
Alors, d'abord, on donne à six traducteurs compétents. Un texte littéraire de Abel Hermant qui a beaucoup de subtilité en lui, donc qui est un texte qui n'est pas simple à traduire en fait. Voilà.
Eh, quand même, oui.
Alors ce texte donc est traduit dans 6 langues différentes.
Ouais. Mmh.
Donc le texte original en français ouais. va être traduit dans 6 langues différentes. Alors il est traduit en italien, en espagnol, en anglais, en allemand, en russe et en espéranto. Ouais, donc il est traduit en 6 langues différentes. Après, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on reprend les traductions qui ont été faites dans ces 6 langues et on demande de les retraduire à une autre équipe, de traducteurs, également très compétents,
ouais.
d'accord, pour qu'ils le retraduisent en français. Donc on part du français, on traduit dans une autre langue, ensuite on retraduit en français. Ouais. L'expérience est quand même intéressante. Hein, donc.
Ah oui, il faut voir le retour,
alors,
là. Ouais.
Alors la retraduction en espéranto, elle est quasiment identique, à part deux mots qui sont rajoutés, sans doute pour donner plus de précision. Le gars oui. a voulu être très précis, donc il a rajouté deux mots. Oui. Enfin, la traduction, elle est identique. La retraduction en italien, elle est presque aussi bonne. Oui. Presque aussi bonne. Mm-hmm. Ce qu'on aurait pu déjà imaginer, car en fait, il s'agit de langue romane.
Hein, oui, la romane, oui.
Latine ouais. romane. Mm. La retraduction en espagnol, donc là, pour le coup, langue latine, la retraduction en espagnol, elle n'est pas mauvaise, mais elle a quand même quelques erreurs importantes, malgré tout.
Ah, ouais, oui.
Donc, alors, il n'a pas pris non plus n'importe quel texte, hein, il a pris un texte un peu compliqué, quand même. Hein, voilà. La retraduction dans l'anglais, en anglais, est mauvaise.
Ouais.
Et la retraduction à travers... l'allemand et à travers le russe est très mauvaise.
Ah ouais.
Voilà. Et Tristan Bernard, donc, de commenter quand je devrais demander une traduction d'une pièce de théâtre que j'ai écrite, eh ben je demanderai d'abord qu'on fasse cette traduction en espéranto et après je demanderai à quelqu'un à un locuteur, on va dire allemand par exemple, qui est un bon espérantiste, de le traduire dans la langue allemande avec que j'obtiendrai de meilleurs résultats. Mm-hmm. Donc voilà, on a un petit peu, je crois qu'on a un petit peu fini par rapport à ça.
Ah ouais.
Évidemment, en critique que je fais un petit peu quand même, c'est que si on avait traduit à partir du chinois, peut-être que ça aurait quand même été plus compliqué, hein, je ne sais pas.
Ah oui.
On prend quand même des langues qui sont quand même, à savoir quand même que le lexique. Alors la grammaire espérantiste n'est pas spécialement latine.
En chinois, mais... c'est pas évident que ce soit si compliqué que ça, parce que
j'en sais rien.
C'est pas parlé du coup là, c'est d'écriture.
Oui.
Donc il n'y a pas les tons.
Oui.
Il y a pas les tons. Il n'y a pas non plus sans doute le système d'écriture aussi.
Bah, ça mériterait. De...
Oui, mais quand on lit des choses faites par Pierron.
Oui.
C'est Pierron ça. Oui, oui. Piron. Le chinois est, par rapport à l'espéranto, hein, c'est vraiment très clair. Hein, c'est...
Oui, parce que pour eux, en fait, c'est une langue. Pour eux, c'est une langue isolante, en fait. Eux, ils ont une langue isolante.
Oui.
Et en fait, ils prennent l'espéranto comme une langue isolante.
Ça va très vite.
Les suffixes de l'espéranto peuvent être aussi des mots à part entière. Alors, c'est pas si vrai que ça. C'est pas. À 100% vrai, enfin quand même pas mal.
Et puis les journaux qu'ils éditent en espéranto, c'est...
Ah, ils sont une qualité littéraire absolue. Hein,
c'est super bien écrit. Oui,
je me souviens que j'avais un ami qui était hollandais et qui disait, bon, c'est absolument illisibile de lire El Popolo Chino, parce que c'est...
Les photos,
ça, c'est ça, absolument, c'est des gens qui sourient tout le temps, etc. Il dit, c'est insupportable.
Ouais.
Mais il dit, par contre, j'ai le plaisir à le lire pour la qualité de la langue.
Donc,
au niveau de l'idéologie, il ne rentrait pas là-dedans, hein, ça, je le comprends fortement. Mais, par contre, au niveau de la qualité littéraire de la langue, il dit, bon... Ce qu'ils font, c'est absolument parfait. Bon, voilà, j'ai un petit peu exagéré, sans doute, sur le temps.
Voilà, on est en train de terminer, on finit l'émission tout doucement, et puis... tu t'y es posté, la Velanta et le Sendo, estos les amis d'Orwell, donc il y a la Orwella y Amicoi, Gay Amicoi, yes. Dont Jérôme Lassis Ionalni, dont la Penanta El Sendo, Ocasos, il est là, tout dès que nous voit.
Mais une forme est-ce qu'elle est donnée, ni finisse qu'un Umberto Eco, mais nous, une forme est-ce qu'elle est venante chronique, est-ce que ça suffit chez Provoquema?
Provoquema.
Yes.
La Venanta.
La Venanta.
Yes. D'accord. Yes.
C'était Radio Espéranto sur Radio Libertaire avec Guy, Hubert et Marc. Guy, on termine cette émission avec.
Et toi, Serge.
Oui, tout à fait.
Merci, Serge.
On termine cette émission avec une compilation de musique africaine.
Ah, super.
Ouais. Compilation de musique africaine, mais en Espéranto. Tu peux nous la présenter éventuellement? Qu'est-ce qu'on va écouter?
Eh bien, c'est. Mine confidence privée. Voilà.
Ah.
Voilà, je ne suis pas en accord avec vous. Yes.
Ouais, eh ben, on est tout à fait d'accord, en tout cas, pour retrouver samedi prochain à 17h30.
Donc, on s'adresse.
Vendredi prochain à 17h30, pardon.
À 17h30. On s'adresse à tous ceux qui. Qu'on n'aime pas, qui sont contre nous et qui. Voilà. Il y a beaucoup de monde. Hein.
Donc c'est provoquant aussi.
C'est provoquant aussi, merci. En fait. Merci.
Bonne soirée à l'écoute de Radio Libertaire.
Confident, minéravas. Confident, privi. Charvi estas. Jalousam. Minéravas. Confident privi, mi ne havas. Confident privi, mi ne havas. Confident privi, ĉar vi estas fumema homo. Confidon privi, kial havi, confidon privi. Estas ebria hom, mi ne havas konfidon pri vi, konfidon, ĉar vi estas konfidon malĝentila hom, konfidon, kial havi konfidon, konfidon pri vi. Estas aventuristo kial havi konfidon pri vi, kial havi konfidon pri vi, kial havi konfidon pri vi.
So tall. Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parle que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasé. Les peuples unitéralement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissance ont tracé leur route sur nos libertés. Ils ont juré, craché, créé, n'entravera la leur à l'heure où les